Quoi, Sophie Claude?
Quoi, Wadja, Alexis?
Hey, Sophie Claude, on n'a pas encore changé le nom pour Quoi, Wadja?
Je pense que ça va être la prochaine étape.
aujourd'hui, on reçoit une artiste multidisciplinaire qu'on a déjà eu la chance d'accueillir à notre émission Soleil Launière. Elle a lancé son premier disque.
Ah, ça va être vraiment excitant. J'ai hâte de parler avec Soleil.
Mais en premier, on reçoit Tania Sirois, qui est la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, qui a un parcours impressionnant et qui vient nous parler aussi des initiatives en logement que le regroupement a en ce moment. Donc, quoi, Tania?
Quoi à vous deux?
Quoi? Toi, tu es une Innu, si je comprends bien, si j'ai vu mes notes selon ton parcours. Tu es une Innu de Pessamite.
Bien, tout à fait. Je suis Innu. Ma mère est Innu, okay, de la communauté de Pessamite. Mon père est Québécois. Donc, je fais partie des Premières Nations qui sont nées dans la ville. Donc, je suis née à Baie-Comeau en 1980 et j'ai toujours grandi dans les milieux urbains. Mais ça m'empêchait pas d'aller Baie-Comeau et Pessamite. On parle de 40 minutes. Là.
Ouais, c'est à côté.
Donc, mes grands-parents étaient à Pessamite. J'avais de la famille à Pessamite. Mon frère a vécu longtemps à Pessamite. Donc, ce lien-là avec la communauté a toujours été. Donc, j'avais un deuxième chez moi qui était dans la communauté. Donc, j'ai passé des étés là et tout ça. Donc, quand on parle des Premières Nations en milieu urbain, ben il y a une génération qui est née en milieu urbain.
Oui, t'en fais partie, j'en fais partie. Moi, à Val-d'Or, c'était le centre d'amitié autochtone qui m'a grandement aidé à garder un lien avec ma culture autochtone. Toi, tu avais la chance d'avoir ta communauté pas trop loin puis pouvoir y avoir accès. J'imagine que l'ouverture récente d'un centre d'amitié à Baie-Comeau dans ton patelin, ça a dû être un grand moment de fierté pour toi.
Tout à fait. Ça a toujours une belle signification, l'ouverture d'un centre d'amitié dans une ville. Mais c'est sûr que je vous cacherai pas que une ouverture du futur centre d'amitié autochtone de Manicouagan, il portera ce nom-là. Et c'était pour moi une fierté, mais c'était d'autant plus pour moi là une fierté de voir tous ces partenaires-là réunis et être content qu'il y ait un centre d'amitié, qu'il y ait une organisation autochtone qui ouvre ses portes au sein de la ville de Baie-Comeau. Ce que je n'ai pas connu, moi, dans les années 80-90, où que la présence, malheureusement, de racisme et de discrimination était très présente, où que le peuple Innu et le peuple québécois vivaient ensemble, mais sans vivre ensemble, donc vraiment en parallèle. Donc, effectivement, oui, j'ai eu ma communauté qui n'était pas trop loin, mais un centre d'amitié aurait permis d'avoir dans ma propre ville un lieu où qu'on aurait pu se rassembler et qu'on aurait pu vivre encore plus sa culture et aussi de sensibiliser les partenaires et les gens qui habitent Baie-Comeau sur les réalités autochtones.
Et donc, Tania, pour faire suite à ce que vous expliquez, est-ce que vous pensez que depuis l'arrivée du Centre d'amitié autochtone, il y a une plus grande réceptivité de la part des non-autochtones à l'égard des populations Innu de la Côte-Nord?
Ben, je peux l'expliquer un peu comme ça, puis c'est ça la beauté de vieillir, je vais le dire comme ça. Je suis pas à bout d'âge, mais c'est de voir des fois dans ma tête, il y a une ligne de temps qui se trace et il y a des événements qui font en sorte que la réalité entre les Québécois et les Premières Nations au Québec, elle a évolué. Malheureusement, des fois, ça évolue, c'est dans n'importe quelle société, là, quand il y a des grands changements, c'est à cause qu'il y a eu une crise ou une tragédie. Donc, juste à penser, en 2016, les femmes autochtones de la région de Val-d'Or qui ont dénoncé des agressions faites par le corps policier ou les corps policiers, là, si on reculait dans le temps, on a juste à penser aussi, malheureusement, au décès de Joyce Echaquan en 2020. Et cette fois-ci, c'était filmé. Donc, ça a été outrageux, même pour la population allochtone. Donc, il y a eu beaucoup de choses dans les dernières années qui ont malheureusement eu lieu, mais qui ont permis à la population québécoise d'être d'autant plus sensibilisée aux médias, de faire la promotion et l'éducation, si je pourrais dire, de l'histoire autochtone au Canada et au Québec. Et fait que tous ces ingrédients réunis là fait en sorte qu'en 2023, ce n'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de pas à faire, mais puis je suis sûre que vous seriez d'accord avec moi, il y a eu quand même une évolution positive dans tout ça par rapport il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans.
Tania, si on revient un peu à ton parcours, la petite fille, l'adolescente et la jeune femme de Baie-Comeau a fait tout son parcours scolaire et secondaire à Baie-Comeau ou t'es partie à un moment donné voler tes propres ailes vers le cégep?
Ben effectivement, j'ai passé une bonne partie là de mon primaire, de mon secondaire à Baie-Comeau, avec bon, j'y restais un petit peu à Chicoutimi. Ma mère travaillait à Hydro-Québec, donc des fois il y avait des transferts et tout ça. J'ai connu un petit peu Montréal et tout ça. Mais effectivement là, à l'âge de 17 ans, j'ai volé de mes propres ailes et je suis partie vers la métropole Montréal, donc pour faire mon cégep. Donc j'ai étudié en évaluation immobilière, donc.
OK.
De l'immobilier m'intéressait beaucoup. Et ensuite, j'ai connu mon conjoint qui est quelqu'un de Baie-Comeau, mais qui vivait à Québec, qui est à Lockton. Et j'ai poursuivi mes études à l'Université Laval, où j'ai complété mon bac en administration des affaires pour tranquillement m'emmener à travailler dans le milieu autochtone à Wendake. J'ai travaillé pour une commission au développement économique des Premières Nations et du Québec et du Labrador, où je travaille beaucoup dans les finances et tranquillement faire ma maîtrise en administration publique et tranquillement à l'âge de 32 ans, là, ça a fait plus de 10 ans que je suis maintenant à la tête là, du regroupement des centres d'amitié autochtones.
Tu as commencé en finance comme directrice des finances, tu es arrivée comment au regroupement?
Au regroupement, c'était vraiment au niveau là contrôleur financier, donc à l'administration et tout ça. Donc c'était mon dada, ça reste encore un peu mon dada, tout ce qui est gestion, tout ce qui est procédure, tout ce qui est gouvernance et tout ça. Et comment qu'on peut évoluer, tu sais, parce qu'on apprend à l'école beaucoup de savoir occidental. Donc maintenant, comment qu'on peut l'appliquer et ça fait partie de mon travail, ça aussi. Comment que la gouvernance, comment les aînés voyait la gouvernance dans le temps, comment qu'on peut justement, tout en respectant certaines règles, on n'a pas le choix, on est assujetti à des règles, mais comment qu'on peut donner cette couleur-là et cette compétence culturelle-là au sein de nos instances, et c'est vraiment ce que je m'efforce de faire là, quotidiennement au sein de mon organisation.
Ça fait quand même 10 ans maintenant que tu es à la tête du regroupement. Pour moi, je connais un peu la mission du regroupement, j'y ai milité là aussi, mais pour nos auditeurs qui seraient moins familiers, on a reçu des directions de centres d'amitié ici à l'émission, mais le regroupement, qu'est-ce que ça fait, puis comment, c'est quoi sa mission envers les centres d'amitié, puis envers la population en milieu urbain autochtone du Québec?
Ben oui, excellente question, parce qu'on sait que les centres d'amitié, eux autres, sont dans l'action, sont dans la prestation de services, tandis que nous, au regroupement, ben on est une association provinciale, donc il y a six autres associations provinciales comme le regroupement partout au Canada. Donc, chaque province a son association provinciale, donc nous, c'est le regroupement ici, puis nous, on travaille vraiment à agir pour la reconnaissance des droits et des intérêts collectifs des populations autochtones dans les villes. Donc, on fait beaucoup de travaux par rapport à ça, parce que ça ne veut pas dire que tu es en ville, que ce soit de façon permanente ou temporaire, que tu n'es plus, tu n'as plus de droits ou tu n'as plus de besoins par rapport à ton identité autochtone. Également, là, on travaille très fort avec les différents gouvernements, principalement provincial, vu qu'on a une association nationale qui s'occupe du niveau canadien, mais on essaie de contribuer au développement de solutions concrètes et surtout influencer les politiques publiques là, significativement pour le mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Donc, on a vraiment cette partie-là qui agit à titre de représentant, comme beaucoup d'associations provinciales, que ce soit dans le milieu allochtone ou autochtone font. Et bien sûr, là, une fois qu'on arrime le tout, une politique publique atterrit souvent à un programme en particulier, que ce soit en éducation ou en santé. Après ça, on travaille avec les centres d'amitié pour faire descendre ces programmes-là et les transformer en services pour les gens et avoir des retombées concrètes là, par rapport à ça. Fait que ça, c'est notre portion, là. C'est la finalité de notre travail, là. C'est que les familles, les individus autochtones en milieu urbain ont des services qui sont culturellement pertinents et culturellement sécurisants.
Il y a des gros centres d'amitié comme celui-là de Val-d'Or qui a des dizaines et des dizaines d'employés, tout un paquet de programmes. Il y a des plus petits centres d'amitié. Moi, je prends les exemples que je connais. Je viens de Val-d'Or, puis c'est là que j'ai commencé à militer avec le centre d'amitié autochtone à Val-d'Or, comme celui-là de Sainte-Terre qui est, on pourrait dire, plus familial quasiment. Est-ce que une partie de votre mission, c'est aussi soutenir certains centres d'amitié ou des centres d'amitié directement?
Oui, tout à fait. On veut pas faire à la place parce que chaque centre d'amitié est autonome. Hein? Oui. On est en train de travailler là-dessus. Comment qu'on définit notre gouvernance autochtone communautaire, mais en milieu urbain aussi. Donc, on a nos particularités aussi. Donc, ça veut pas dire qu'on est en milieu urbain que notre gouvernance n'est pas autochtone. Donc, chaque centre d'amitié est autonome et on les soutient vraiment. Puis effectivement, à différentes échelles, il y a des centres. Il faut dire que le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or quand même est un des plus gros aussi au Canada.
Oui, c'est donc, sûr. En plus, avec l'agrandissement qui s'en vient, ça va peut-être être le plus gros au Canada.
Oui, exactement. Donc, c'est quand même une fierté là, de l'avoir dans la famille. Mais aussi, le centre d'amitié prend beaucoup la couleur du milieu. Donc, Val-d'Or, on sait que, j'appelle ça les métropoles autochtones, que c'est un endroit où il y a beaucoup de mobilité en ce qui a trait les populations autochtones. Donc, la population Cree vient à l'hôpital, par exemple. Il y a beaucoup d'Anishinaabe aussi, il y a même des Atikamekw. Donc, ça fait un endroit où c'est un gros carrefour de circulation d'Autochtones. Contrairement à Sainte-Terre, où que là, c'est peut-être, il y a des Autochtones qui sont en circulation, mais peut-être plus au niveau des gens qui vivent là de façon permanente. Beaucoup plus d'aînés aussi à Sainte-Terre, donc le centre d'amitié prend la couleur de son milieu. Donc, si c'est appelé à être plus effervescent, plus de demandes et tout ça, fait que le centre d'amitié va être porté à grossir, donc on parle à peu près de 100 employés à Val-d'Or, mais comme la TUC, qui est quand même un milieu qui est quand même très effervescent aussi, on peut parler d'une cinquantaine d'employés par rapport à ça. Ça, c'est à peu près là, une moyenne, là, un moyen centre d'amitié, moyen gros, on pourrait parler entre 50 et 60 employés.
Puis le regroupement va des fois pour les aider à... Est-ce qu'on peut parler même d'aider à rédiger des demandes de subventions ou des choses comme ça? Ou c'est vraiment plus du soutien organisationnel qui va être offert à des plus petits centres d'amitié, par exemple?
Oui, ben on offre quand même, on est présent là pour tous les centres, puis normalement toutes les demandes. Effectivement, des fois ça nous arrive là de donner un coup de main dans la rédaction ou dans la réflexion souvent de comment qu'on peut enligner une stratégie de déploiement de services. Ces genres de services-là, on les offrait beaucoup avant, mais maintenant les centres d'amitié, on a beaucoup investi dans les dernières années, je pourrais dire les 5 dernières années, pour renforcer les capacités organisationnelles, donc renforcer la fondation du centre d'amitié pour qu'ils deviennent à ce moment-là, tu sais, autonomes. Je veux dire, de faire partie du regroupement, ça fait la force du nombre. Donc, avoir plus de personnes autour de la table, on peut mieux réfléchir, on a des perspectives différentes, mais on veut s'assurer que le centre d'amitié a les moyens financiers de pouvoir s'embaucher les ressources nécessaires, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de l'intervention et tout ça. Fait que oui, on peut aider que ça aille dans la rédaction d'une demande de financement ou d'accompagner un centre dans sa stratégie de relations publiques ou politiques, de voir comment il peut mettre en œuvre dans sa région telle ou telle stratégie. C'est vraiment donnant-donnant cette relation-là entre le regroupement et les centres d'amitié. Donc, on y trouve notre compte de part et d'autre, mais c'est surtout... On le dit souvent, c'est comme une famille. On s'assoit ensemble et on réfléchit ensemble. Et c'est ça qui fait la force, je crois, de notre mouvement.
À part la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, c'est de quoi tu es le plus fier? Parce qu'on va en parler plus en détail après le petit segment de musique. Rapidement, c'est quoi une de tes plus grandes fiertés dans tes 10 ans à titre de directrice générale du regroupement?
une de mes plus grandes fiertés, ça a été, c'est pas évident, puis j'essaie souvent d'échanger avec des gens qui sont directeurs d'une association provinciale, là, ça existe partout. Ce n'est pas évident de s'asseoir à une table, d'avoir une dizaine de directions avec, tu t'en connais un peu, Alexis, là, les gens que je peux avoir autour
ouais,
de la table.
Oui, il y a des grosses personnalités là-dedans.
Il y a des grosses personnalités, et le fait d'assurer, justement, d'assurer que ça fonctionne bien, j'ai un profil aussi, j'ai un tempérament très, très collaboratif, très coopératif et tout ça, donc d'être à l'écoute, d'être disponible, d'avoir la confiance aussi des gens, puis des fois, on n'est pas toujours d'accord, même certains centres entre eux et tout ça, mais d'arriver à la fin puis de dire, OK, on arrive à la fin, on a pris en compte toutes les idées de tout le monde, mais pour la famille, il faut aller dans cette direction-là. Et quand on dit, c'est correct, je me suis exprimé, c'est de créer cet espace-là, je vais dire sécuritaire, que tout le monde peut exprimer son opinion. D'accord, pas d'accord. Ah, oh, moi, je rajouterais ça. Ah, oh, moi, j'enlèverais ça. Et ensuite, d'arriver, OK, go, on va négocier. On donne le mandat au regroupement, puis d'aller négocier des différentes enveloppes. Fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enveloppes significatives qu'on a signées avec le gouvernement depuis 2021 en matière de santé, ce qui n'existait pas avant. En matière d'éducation, ça existait, mais on a pu renouveler une enveloppe bonifiée. En matière de justice, on n'avait aucun financement en matière de justice. On a pu le concrétiser là il y a 3 ans. Donc, on a mis en place différentes stratégies avec différents ministères, et c'est cette capacité-là qu'on a. Nous, on ne fonctionne pas par silo dans un centre d'amitié ni au regroupement, mais le gouvernement est composé comme ça. Donc, c'est comment qu'on peut négocier avec l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, l'employabilité, la justice, mais nous, une fois que ça rentre dans la machine, si on veut, nous, on travaille autour de quoi? Pas des silos, pas des domaines, mais on travaille autour des besoins des gens. Fait que c'est toute cette transformation-là qui passe de financement à un service qu'on a fait en collaboration avec les centres d'amitié que je suis le plus fier aussi. Et je sais qu'on va parler de la société immobilière, mais notre dernier bébé, c'est la création d'un observatoire de recherche en matière de réalité autochtone,
oui,
en milieu urbain. Donc, on a annoncé l'an passé et qu'on est en train, là, tranquillement, de finaliser toute cette planification-là autour de qu'est-ce qu'elle va étudier, cet observatoire-là et tout ça. Et ça aussi, c'est une belle avancée qu'on a fait, qu'on a bien réfléchi et tout ça, donc je suis très fière parce qu'il existe très, 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 très peu de données pour, en ce qui a trait, l'autochtonie urbaine.
Tania Sirois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. On va prendre une petite pause musicale, on te revient après.
Parfait.
Thank you.
On vient d'entendre une chanson de Kathleen, membre de la nation Wolastoq de Wachipekouk au Québec. Et le titre de la chanson était Sikone Kelstomuitukwakon. Désolée pour mon malécite qui manque clairement de pratique.
Ouais, ben je devrais être meilleur que toi normalement parce que le Wallisite est. Le malécite, donc le Wolastoq est une langue proche de l'Abenaki, mais. J'aurais pas fait mieux.
Mais la mélodie était vraiment.
Oui, bonne, oui, oui. Donc, on revient avec la directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, Tania Sirois. Là, on va parler de logement.
Donc, Tania, juste avant la pause musicale, on parlait justement là, de la population autochtone en milieu urbain. Un pourcentage assez important. Je pense que c'est plus que 50% des Premières Nations qui vivent hors réserve en ce moment, selon les derniers rapports là, des années comme 2018.
Tout à fait, tout à fait. Puis on est en train tranquillement de déchiffrer là, le recensement 2021. Les données des recensements, des fois, faut faire faut pousser un peu plus loin. Là, ils nous rendent pas ça facile. Faut faire des analyses un peu plus poussées. Et les derniers chiffres nous parleraient même de plus de 60% des Premières Nations. J'exclus là à ce moment-ci là le peuple Inuit, mais des Premières Nations qui auraient une résidence permanente dans les villes. C'est ce qui fait aussi que on ne parle pas à ce moment-là des Premières Nations qui viennent pour l'hôpital, par exemple, ou qui viennent pour une durée plus courte, qui viennent pour les études. Donc, il y a beaucoup de populations autochtones dans les villes. On est un petit peu en retard par rapport aux autres provinces canadiennes. Le Québec, des fois, ben en retard, si on peut considérer les tendances.
On peut le dire en retard. On le voit dans beaucoup de domaines. C'est correct, Tania.
En retard. Donc, fait que les tendances sont appelées à augmenter. Puis souvent, on nous pose la question, oui, mais c'est-tu les gens qui quittent les communautés? Puis c'est pas nécessairement ce phénomène-là. C'est qu'il y a de plus en plus de Premières Nations qui naissent dans les villes, et surtout avec tous les derniers jugements, que ce soit de la Cour suprême ou quoi que ce soit, il y a de plus en plus de statuts qui sont retrouvés chez les populations autochtones dues à des injustices créées sur la loi sur les Indiens. Et ces populations-là sont où? Pas dans la communauté, ils n'avaient pas de statut, donc ils sont vraiment en milieu urbain. Donc, il y a vraiment une augmentation dans les communautés de la démographie des populations Premières Nations, mais aussi en milieu urbain qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accéléré et beaucoup plus visible aussi.
Ce qui fait qu'on a des besoins comme en logements sociaux. C'est pour ça qu'on a créé la Société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec?
Tout à fait, tout à fait. Mais ça, les enjeux de logement existaient depuis longtemps. C'était,
oui.
c'était les centres d'amitié quand on nous parlait. Puis tu sais, on s'entend, le besoin de logement pour n'importe quelle population, c'est un besoin de base. Hein? C'est un besoin de se loger dans un milieu sécuritaire. C'est la base de tout. Là, on peut pas aspirer à être un étudiant, à être un employé, à être quelqu'un d'épanoui si on n'a pas ce logement-là. Donc, c'était un enjeu qui était discuté depuis longtemps. Malheureusement, avant 5-10 ans, au niveau des programmes qui existaient en matière de développement de logements sociaux, c'était très restreint au niveau au niveau du provincial, au niveau de la Société d'habitation du Québec. Donc, en 2017, le gouvernement du Québec nous a approchés via son ministère de l'Éducation, mais enseignement supérieur maintenant, pour dire, écoutez, on travaille avec vous, ça fait longtemps, puis on se rend rend compte que le logement est vraiment une barrière à l'acquisition d'un diplôme postsecondaire. Donc, est-ce que vous seriez intéressé à porter cette mesure-là, cette mesure à ce moment-là, de développer du logement? Puis là, il y avait deux villes qui avaient été ciblées, qui étaient Sept-Îles et Trois-Rivières. Fait que nous, on est toujours prêt pour un nouveau défi, puis on savait que c'était un enjeu. On a été c'est le ministère aussi avec nous, là, parce que c'est un enjeu présentement, le logement étudiant pour tout étudiant, là, toute nation confondue, là, en 2023. On voit souvent ça dans les nouvelles, les universités ont un enjeu par rapport à ça. Fait que nous, ça fait depuis 2017, et rapidement, on a créé notre société immobilière pour des questions, là, légal, de personnes morales et tout ça. Donc, on a créé la société immobilière du regroupement des centres d'amitié autochtones parce qu'on voulait que cette société immobilière repose sur notre expertise qui a quand même plus de 50 ans au Québec. Donc, tranquillement, là, on a créé ça.
Il nous reste très peu de temps, Tania, oui. Je suis désolé. Rapidement, mettons, pour un projet comme cette île, c'est combien de logements?
C'est 32 logements.
32 logements, ça veut dire 32 familles qui vont avoir une place pour se loger, pour être en mesure d'aller à l'école. Puis pour un projet comme Trois-Rivières, on parle de combien de logements?
42, autour de 42 logements. Je pense qu'ils en ont ajouté là, dans les plans, là, peut-être autour de 44, là, mais on parle de, on va dire une quarantaine.
Puis
une quarantaine de logements.
C'est des CPE qui sont adjacents. C'est tout un milieu de vie aussi qu'on crée en même temps.
Tout un milieu de vie, et je tiens à mentionner que la présence d'un CPE sur place, et c'est pour ça qu'on appelle ça un milieu de vie, la présence d'un CPE sur place est essentielle au retour des études des mamans autochtones parce que c'est principalement des femmes et des mamans qui habitent là, dans ces milieux de vie-là.
Tania, je te dis chicken skimenta. Tania Serrois, directrice du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Va falloir te réinviter.
Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir.
Yamé.
Chimigwetch, Tania.
Merci.
Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
On passe à la culture maintenant, un super bel album que j'ai eu la chance d'écouter quelques extraits avec la lumineuse Soleil Launière.
Kwe Soleil.
Kwe, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui.
On est vraiment excité de t'avoir au micro aujourd'hui. Soleil, tu es une artiste multidisciplinaire Innu de Mashtoyats. Et donc, ton nouvel album, ton premier album en plus, ça fait quand même déjà un bout de temps que tu es sur la scène, mais là, ça s'appelle, je veux bien le prononcer, mais Tao, c'est comme ça qu'on prononce?
Taweo, oui.
Taweo, OK, parfait, merci beaucoup. Et donc, pour travailler sur cet album-là, tu as travaillé avec Joséphine Bacon, qui était aussi ton enseignante d'Innu Aymon, la langue Innu. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de travailler avec Joséphine?
Ben Joséphine, c'est une année tellement importante dans la communauté Innu, puis elle m'inspire énormément aussi, je pense, en tant qu'artiste, en tant que personne, en tant que juste sa présence, en fait, là, avec moi. Je me sens choyée, en fait, de l'avoir un peu dans ma vie de la manière dont elle est là.
Tu as décidé de lui faire une place importante à Joséphine sur ton disque en la mettant de l'avant dès la première chanson.
Oui. Je trouvais ça important, en fait, de commencer. Je commence avec Joséphine, avec l'aînée, puis je finis avec... avec l'enfant, en fait, qui était dans mon ventre au moment où j'ai fini d'enregistrer l'album. Donc, juste de sentir le cycle de ça, de commencer par l'aîné puis de finir avec l'enfant, pour moi, ça, c'est important de sentir la multitude de générations, puis l'importance de ces deux voix-là, en fait. Puis la première chanson parle du fait qu'on n'est pas plus haut que la nature, mais aussi on n'est pas oublié. Je pense que ça amène aussi l'égalité. Puis l'importance de toutes les voix dans toute leur génération. Okay.
Voilà. Il y a quelque chose de dans les chansons, les extraits en tout cas que j'ai pu entendre, de mystique dans ton approche, de je dirais même spirituel. Est-ce que c'était l'intention ou c'est moi qui n'ai pas bien lu ta musique ou qui n'ai pas bien écouté ta musique?
Ben, je ne sais pas si c'était l'intention, mais je pense que à travers mon art en général, je suis très dans le... malgré moi, ça va dans le rituel, puis dans quelque chose qui est proche de ben, qui est très spirituel, veux pas. Je pense que ça fait partie de moi vraiment fort, donc ça rayonne dans les chansons, ça n'a pas le choix, là. Comme dans mon art en général, je pense que ça a toujours été présent, que je le choisisse ou non, en fait.
Puis le fait, on se cachera pas, tu mentionnais d'entrée de jeu que tu attendais un enfant lors de la création de cet album-là. Clairement, ça a dû aussi t'amener dans un état, tu es une personne assez spirituelle. Ça a dû être exacerbé par le fait d'attendre un enfant et d'en porter un en même temps, non?
Ben oui, puis tu sais, le processus a commencé, j'étais pas enceinte, j'étais... Je pensais même pas tomber enceinte au départ. Puis après ça, c'est venu le vouloir de tomber enceinte. Je suis tombée enceinte. J'ai, tu sais, comme tout le processus, en fait, a suivi cette courbe-là. Puis la petite est née le 9 juin dernier. Fait que, tu sais, je veux pas, l'album était terminé, rendu là, mais il n'était pas encore sorti. Donc, tout le travail après ça en amont des choix s'est fait. Mais je pense que ça m'a ancrée durant le processus. Pas que j'étais pas ancrée avant, mais la manière dont je chantais certaines des chansons, parce que pas toutes étaient là encore, là, mais certaines des chansons que je chantais, je comprenais pas encore même moi-même ce que autant que je voulais dire qu'après que j'ai eu la petite dans mon ventre où ça apportait une autre profondeur, puis dans ma voix, mais aussi dans la chanson, en fait, de ce que ça voulait dire. Que ça a vraiment ancré le processus, puis ça y a donné d'autres racines, mettons. Ouais.
Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce disque-là. Joséphine Bacon, on en a parlé, Geneviève Touplein, Chloé Lacasse, Vincent Carrier, Alter Ego, Quinn de Belen Quinn, qui est d'origine haïtienne, Saline Chenoise. Je m'excuse si je le prononce pas comme il faut. D'autres noms qui sont, j'imagine, berbères. T'as voulu... c'est toi que ça te représente de faire exploser à quelque part les frontières culturelles, que ce soit dans une certaine autochtonie, mais aussi mondiale?
Ouais, ben c'était dans les premières... Comment dire, les premières choses que je voulais, en fait, par rapport à cet album-là, c'est d'apporter la vision féminine, surtout, là. C'est ça qu'il y a des hommes, des gens qui se représentent masculines dans ces gens-là, mais en soi, juste d'avoir plusieurs voix féminines qui se tiennent ensemble, qui avancent ensemble, pour moi, c'est important. Puis, je pense que c'est avec... De sentir cette collaboration-là, pour moi, c'est important aussi. J'aime collaborer, j'aime ça travailler avec les gens, j'aime ça qu'on... Je pense pas que j'aurais pas pu arriver à ce résultat-là, c'est certain, sans l'apport puis la présence de tous ces gens-là sur l'album. Ouais. Pour moi, ça, c'est important. Enlever les frontières puis parler ensemble.
Mais justement, quand tu dis enlever les frontières et parler ensemble, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu es allé vers le peuple berbère? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait depuis longtemps ou ça a été plutôt une coïncidence qui s'est présentée sur ton chemin?
C'est une coïncidence qui s'est présentée sur mon chemin. Puis c'est une belle coïncidence. C'est vraiment... on était supposé au départ de collaborer avec des gens d'un autre peuple que à cause de... Des trucs de COVID, voyage, etc. Ça s'est pas passé. Puis le réalisateur de l'album, Simon Simon, oui. Allait enregistrer l'album de Tarwa Ntenery, qui est sur l'album, là-bas au Maroc. Donc, il a dit, hey, mais pourquoi est-ce qu'on change pas ça? Puis vous venez me rejoindre à la fin de l'enregistrement. On trouve une chanteuse berbère de là-bas, puis on arrange ça, en fait. Puis ben, c'est sûr que je disais, ben, c'est une très bonne idée. Fait qu'on a fait des recherches, on a rencontré des gens, puis ils connaissaient des gens là-bas. Fait que tout ça est tombé en place naturellement, en fait.
Oui, parce que.
Comme si c'était dû, en fait, là, tellement. Ouais.
Ben, ça avait l'air assez naturel quand même comme processus. Je suis comme surprise de savoir que c'était une coïncidence qui s'est présentée. Donc, c'est vraiment une très, très belle coïncidence. Ça a dû être super inspirant.
Oui, c'était vraiment très inspirant. Puis, comme tu dis, c'est quasiment étrange de penser que c'était une coïncidence parce que vraiment, c'était naturel. Puis tout le monde dans l'espace, c'était naturel ensemble. Ça s'est super bien passé. C'était le fun. Puis, j'étais enceinte de 5 mois en plus à ce moment-là. Fait que...
Ça ajoutait à la magie, là.
C'est beau. Oui, quand même. Quand même.
Dans ton arbre créatif, on voit que tes branches peuvent aller jusqu'à chez les berbages avec les amazigues. Et ouais. Tes racines sont importantes, comme dans la pièce Piekougami.
Piekougami, oui. Ben oui, je veux pas le lac Saint-Jean, il vit à l'intérieur de moi. C'est là où j'ai grandi, c'est là où ma famille est encore là. C'est mon cœur, c'est le centre, hein, c'est Tawel, le centre. Puis c'est ce qui m'a formé artistiquement, puis ce qui m'inspire encore quotidiennement. Fait que pour moi, c'est important qu'elle soit là.
Puis ces racines-là te permettent, j'imagine, de pouvoir te déployer même en habitant en milieu urbain comme à Montréal.
Ben oui, je trouve ça important de garder la nature vivante à l'intérieur de soi, malgré qu'on est en ville, de garder mes racines actives, puis savoir que même si mes racines sont longues puis sont loin, ils sont quand même là, puis sont ancrées, puis sont fortes. Fait que ouais, même si je suis à Montréal, c'est pour moi c'est important, puis j'y retourne quand même souvent là, j'en ai besoin, puis des fois je puise des morceaux de roches qui sont sur le bord du lac, je les rapporte avec moi, des bois flottés, je les rapporte avec moi pour c'est comme apporter leur énergie aussi sur scène quand je performe ou même dans les espaces où je vais travailler pour apporter cette énergie-là avec moi aussi.
Ça fait quelques années que tu collabores avec Musique Nomade dans le cadre de la création musicale. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi de collaborer avec Musique Nomade? Qu'est-ce qui t'apporte en tant qu'artiste autochtone?
Ben, Musique Nomade, c'est de la famille. Là. Pour moi, je me sens toujours très, très supportée, écoutée. J'ai pas besoin de m'expliquer aussi. C'est tellement important dans un processus de travail de pas avoir besoin de s'expliquer. Puis ils me font confiance. C'est la confiance qu'ils ont entièrement à ma vision. Tu sais, je me suis pas dit en faisant l'album, ah moi je veux vendre le plus de disques possible, puis que ce soit ça. Non, tu sais, je me suis dit, je veux faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apporter ma vision de l'avant. J'ai envie de d'éclater justement les frontières, puis juste m'exprimer, puis Musique Nomade m'a toujours supporté là-dedans, ils m'ont suivi dans ce que je voulais faire, puis c'est extrêmement important d'avoir ça, c'est d'avoir des gens qui ont confiance en toi, puis en qui tu as confiance aussi, c'est je sais qu'ils sont là pour moi, qui m'écoutent, c'est important.
Puis... Ouais. Cette confiance-là, ça va dans... Ils t'écoutent, ils sont là. Eux, j'imagine que ce genre de collaboration-là qui est basée sur la confiance te permet de pouvoir continuer à te déployer non seulement dans la musique, mais aussi dans tout ton autre art. Tu es une artiste multidisciplinaire. Donc, d'avoir justement confiance en une organisation qui fait plus de musique... Ça doit te mettre en confiance de pouvoir te dire, ben, je peux continuer aussi à faire puis à me concentrer sur plus qu'une forme d'art.
Oui, ben oui, c'est sûr. Il y a personne qui me bloque dans ce processus-là, mais au contraire, il m'encourage à aller vers ça. Puis, ça se démontre bien sur, sur scène aussi quand on a fait, quand on va faire le spectacle ou quand on le fait, c'est que je peux mélanger l'art performance à la musique, puis tout ça se marie bien, puis ils font confiance aussi là-dedans, puis je peux entièrement déployer toutes mes branches, comme tu dis.
Tu as choisi Mickey Ottawa pour la pochette de ton album. Est-ce que tu aurais pu aussi décider de prendre une de tes propres œuvres ou de t'exprimer par un moyen visuel? Pourquoi c'est important d'aller chercher la vision de l'artiste Atikamekw Mickey Ottawa?
J'aurais pu. Je pense pas que je suis... même si je fais de l'art visuel, je pense pas que je suis au niveau de Mickey. Là. J'aime beaucoup son œil artistique. On écoute, puis elle apporte toujours un... C'est pas la première fois que je collabore avec Mickey. Je trouve toujours qu'elle apporte un angle que j'avais pas vu sur les sujets que j'ai envie d'apporter de l'avant. Puis j'aime beaucoup son point de vue. J'aime beaucoup sa... Ben, j'aime son art, là. J'aime beaucoup son art. Puis je pense que c'est le fun aussi que ce soit différentes voix autochtones qui expriment ce qu'on veut exprimer. Donc, c'est encore là un désir d'ouvrir puis d'aller voir plusieurs voix, en fait, là, pour cet album-là. Donc,
Puis, avec cet album-là qui a quand même été lancé très récemment, dans le fond, c'était le 17 octobre. C'était à la Sala Rosa à Montréal. là, c'est sûr que, étant donné que tu as une jeune fille à ta charge, c'est clair que ça prend du temps dans tes journées, mais est-ce que tu as d'autres spectacles qui vont être prévus dans cette année ou c'est sur la glace pour l'instant?
Ben 2023, pas tant, mais 2024, oui. Donc, j'ai décidé pour le reste de jusqu'à la fin de cette année 2023 que j'allais pas en ajouter pour côté spectacle, mais 2024, on a plusieurs dates là, qui sont en train de se confirmer. Donc,
puis, pour nos auditeurs qui aimeraient pouvoir aller t'écouter, aller te voir, comment on trouve Soleil Launière?
Comment on trouve Soleil Launière?
Est-ce que tu as des médias sociaux? Est-ce que tu as un site Internet?
Je pense que...
Oui,
tu dois être sur Nikamowin aussi, la plateforme de musique autochtone?
Exactement, sur la plateforme de musique nomade, Nikamowin, je suis là. Il y a l'album sur Nikamowin aussi et sur toutes les plateformes. J'ai une page d'artiste sur Facebook où vous pouvez me trouver. J'ai un Instagram où je mets les publicités. C'est aussi un mélange de personnel, là, mais là-dessus, je publie beaucoup ce qui s'en vient. Puis... ouais, c'est ça. Donc, mais je pense que la page Facebook d'artiste dit...
Donc, facebook.com/soleillaunièremusique.
Oui, c'est ça. Je vais pas faire la publicité de Facebook, mais je veux pas...
Non, mais il faut quand même qu'on soit rejoignable. Puis c'est important qu'on puisse avoir une façon de rejoindre les gens, de pouvoir...
Une proximité,
puis c'est pas tout le temps facile, hein, la vie d'artiste, faut être capable de pouvoir en vivre, donc on encourage quand même nos auditeurs à aller te voir, puis à aller surtout t'écouter.
J'ai aussi un site internet que je vais mettre à jour où les dates devraient être dessus aussi.
Donc je présume que... Je présume qu'aussi tu vas partager ta page web sur ta page Facebook. Donc vraiment,
oui,
Nikamowin et Facebook, ça serait vraiment les deux meilleures places où te suivre.
Oui, exactement.
Puis en terminant, est-ce que je sais que là, avec le nouveau bébé, puis le nouveau disque, il ne doit pas avoir beaucoup d'autres projets pour les autres formes de création ou tu continues aussi à créer en art performance ou en art visuel?
Écoute, je pars étable, on dirait, non?
On aime ça!
Mais il y a quelque chose de beau. Hier, j'ai eu une nomination pour le prix du gouverneur général pour mon livre Akuteo qui est sorti.
Oui, dont on avait parlé à l'émission ici, oui.
Oui, c'est ça. Donc, je suis nominée pour le prix du gouverneur général, ce qui est super.
Bravo!
Oui, je suis très contente de me dire ça hier. Puis sinon, ben j'ai des créations qui sont en cours, là, probablement des spectacles en septembre prochain, dont un truc multigénérationnel à suivre. Avec ma fille et ma mentor. Donc,
il va falloir que tu reviennes nous en reparler.
Ouais, oui, tu nous piques la curiosité. Là. C'est
des choses qui s'en viennent. Vous restez à l'affût.
Génial.
Ouais. Bon, ben, moi, je te dis un gros Oliani. Merci pour ta présence avec nous.
Un gros kichimigwech, soleil.
Oui, tu n'es que maintenant.
Yamé.
Yamé.
Mes racines corps creusent la terre. Je suis unie au territoire. Je déconstruis toutes les frontières. Waya, waya. Waya, waya. Waya, waya. Je ne suis pas.
Très émotive.
Oui, mais j'aime beaucoup que Soleil Launière, là-dedans, elle raconte qu'elle est vivante. Et
oui.
C'est souvent, on entend souvent, le titre de la chanson d'ailleurs est Missing Murdered Indigenous Woman G2S. Donc c'est MMIWG2S et qui est pour les femmes autochtones disparues, assassinées et les personnes bispirituelles aussi. Donc en parlant des personnes qui sont disparues, assassinées, je pense que c'est super. Intéressant aussi de célébrer la vie aussi, malgré tout ça.
Parlons actualité. Il y a une actualité qui t'a particulièrement touché, Sophie Claude. Qu'est-ce qui va arriver bientôt avec un reportage de Fifth Estate relativement à l'identité autochtone de Buffy Sainte-Marie?
Oui, c'est un reportage qui va sortir la semaine prochaine. Donc, on a bien hâte de voir ça. Je pense qu'il y a plusieurs Autochtones qui doivent se préparer mentalement à ce qui va sortir.
Parce que pour beaucoup de personnes, Buffy Sainte-Marie a quand même une importance symbolique
Oui, oh oui, moi je me
significative.
Je me souviens, Alexis, moi la première fois que j'ai vu Buffy Sainte Marie, c'est je devais avoir 2-3 ans, puis j'écoutais Sesame Street, mm-hmm. et Buffy Sainte Marie était assise à côté de Big Bird, donc le gros oiseau ouais. jaune. Elle allaitait, elle avait les cheveux tressés, le look très typique autochtone, et elle expliquait l'importance chez les Autochtones et le lien et tout ça. Donc, pour moi, ça a été une des premières personnalités, je pourrais dire exemplaires, que j'ai vues dans le milieu autochtone et ça a marqué une partie de mon enfance. Même aussi, je me souviens, quand je travaillais au Centre d'amitié autochtone pour le Centre des jeunes à Montréal, elle était venue faire un spectacle en 1999-2000 et puis tous les jeunes étaient allés, tout le monde était enthousiaste, là, j'avais jamais vu autant de jeunes motivés et mobilisés à aller la voir. Elle avait signé un poster pour les jeunes, Yes, Native Youth. Et les jeunes étaient tellement inspirés. Donc là, la nouvelle qui va sortir, en fait...
Ça serait quoi, cette nouvelle-là?
Ça serait qu'en fait, elle aurait des origines seulement que ses deux parents seraient italiens.
OK.
Et qu'elle, en fait, là, parce que ça fait vraiment beaucoup jaser sur la toile cette semaine, qu'elle serait, en fait, adoptée par une famille Cree. Et donc, cette famille-là...
a fait un statement, a fait une déclaration, si je m'abuse.
Oui, la famille Piapot, en fait. Donc, ils ont fait vraiment Deborah et Niwanis Piapot. On fait vraiment une déclaration qu'on peut retrouver un peu partout sur Internet. Et ils disent qu'ils sont les descendants du chef Piapot et qu'eux ont adopté Buffy Sainte Marie, qu'elle est leur tante, elle est un membre de leur communauté, qu'elle est un membre de leur famille et que... donc, que ces accusations-là qui soient faites, qui seraient selon eux, selon leur dire, que ce serait dommageable, ce serait ignorant, que c'est colonial et raciste. C'est sûr que là, à ce moment-là, dans tout le milieu autochtone, c'est pas unanime, c'est jamais linéaire. Ça va être à suivre. Je pense qu'il faut se préparer émotionnellement, comme je disais plus tôt, à regarder ce reportage-là pour ceux qui vont vouloir le regarder. Je pense que c'est le sujet de plusieurs discussions. Est-ce qu'on peut être autochtone parce qu'on est adopté ou est-ce qu'on doit mentionner nos origines et plutôt être un allié à ce moment-là? Je pense que c'est des questions qui se posent et qui enflamme le cœur de plusieurs autochtones
oui.
et la toile.
Puis avec tout le débat sur les Pretendiennes ou ces personnes-là qui s'approprient une culture sans nécessairement avoir de lien, ça vient alimenter la réflexion.
Sans vivre les traumas aussi.
Ouais.
Là, je regarde, moi, je suis une survivante intergénérationnelle de pensionnat pour Indiens, donc ces personnes-là qui arrivent sans nécessairement tout ce bagage traumatisant-là n'ont pas nécessairement vécu ces choses-là. Et donc, ouais.
On vient dire aussi que ces personnes-là peuvent prendre une place qui ne leur revient pas.
Ça nous a pris tellement de temps à avoir de la place. Là, écoute, Alexis, moi, je me souviens, dans les années 90,
c'était après... pas hot, c'était pas cool, c'était pas trendy.
J'ai déjà eu un CV où est-ce que c'était seulement... Je mentionnais jamais que je travaillais pour des places autochtones. Je disais tout le temps un centre de jeunes autochtones, mais je disais juste un centre de jeunes dans le centre-ville. Mm. Un refuge pour femmes, mais je disais pas le refuge pour femmes autochtones. Je disais un refuge dans le centre-ville, juste pour travailler dans un resto, là.
Ouais.
Donc, là, maintenant, il y a vraiment quelque chose de différent qui vient. Et ça, c'est vraiment... On a travaillé tellement fort pour avoir une place. Là, c'est en plus, c'est des gens qui ont peut-être un ancêtre qui date de 1800, ben, qui viennent prendre nos places, qui sont enfin réservées pour nous. Ben, on se ramasse à se faire damer le pied encore, là.
Ben oui. Parlant justement de trauma et tout ça, il y a une grosse nouvelle qui est sortie dernièrement cette semaine. 23 milliards pour compenser les jeunes qui ont passé par les systèmes de protection de la jeunesse. Donc, c'est un gros règlement. On parle de 40 000 $ par personne, 300 000 enfants retirés de leur famille, de leur communauté. Est-ce que des réparations individuelles, tu penses que ça peut aider comme ça?
Moi-même, je suis allée en famille d'accueil quand j'étais plus jeune, de l'âge de 13 ans jusqu'à 17 ans. Et je crois que ça peut aider certaines personnes parce qu'on n'a pas eu l'accompagnement pour, disons, partir dans la vie. Okay. Tu sais, avoir notre premier appartement. Moi, j'ai pas eu un papa-maman qui m'a acheté un balai, du savon à vaisselle, etc. Donc, je pense que ça peut peut-être aider, mais je pense qu'il faut de l'accompagnement aussi avec ça, parce que ces traumas-là viennent pas tout seuls.
Ouais, puis il y a un autre débat qui vient avec ça. Est-ce qu'on compense les communautés qui se sont fait enlever puis tous les traumas communautaires? Mais bon, ça, c'est notre réflexion qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, manifestement. Donc, l'émission 106 avec Sophie-Claude Miller.
Oui, avec Alexis Wawanolat.
Mathieu Tessé à la régie, à la recherche, Claire Guérin et Sylvestre Deterre. On se revoit la semaine prochaine. Non, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est avec Sylvestre qu'on va faire l'émission.
Oui, on se revoit dans deux semaines,
On se revoit dans deux semaines.